Ruth, chapitre 1, à partir du verset 6. Et elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint des champs de Moab, car elle avait entendu dire au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple pour leur donner du pain. Et elle partit du lieu où elle était, et ses deux belles-filles avec elle, et elles se mirent en chemin pour retourner dans le pays de Juda. Et Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune dans la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous avez fait envers les morts et envers moi. L'Éternel vous donne de trouver du repos, chacune dans la maison de son mari. » Et elle les baisa, et elles élevèrent leur voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, mais nous retournerons avec toi vers ton peuple. » Et Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi iriez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon sein, de sorte qu'ils soient vos maris? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour être un mari. Si je disais que j'en ai l'espérance, quand cette nuit même je serai un mari, et que même j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela jusqu'à ce qu'ils fussent grands? Resteriez-vous pour cela sans être un mari? Non, mes filles, car je suis dans une plus grande amertume que vous, car la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent leur voix et pleurèrent encore. Et Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et Naomi dit, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne-t'en après ta belle-sœur. » Et Ruth dit, « Ne me prie pas de te lasser pour que je m'en retourne avec toi. Car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Ainsi me fasse l'Éternel, et ainsi il y ajoute, si la mort seule ne me sépare de toi. » Et Naomi vit qu'elle était résolue d'aller avec elle, et elle cessa de lui parler. Et elles marchèrent les deux jusqu'à ce qu'elles arrivèrent à Bethléem. Et il arriva que comme elles entraient dans Bethléem, toute la ville s'émut à leur sujet. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Et elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je m'en allais comblé, et l'Éternel me ramène à vide. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, quand l'Éternel m'a abattu et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Ainsi Naomi revint, et avec elle Ruth, la Moabite, sa belle-fille, qui était venue des champs de Moab, et elles vinrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges.
Pourrions lire un verset dans le livre de Josué pour comprendre ce qu'était le pays de Moab par rapport à Israël. Le livre de Josué, chapitre 1er. Versets 3 et 4. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme j'ai dit à Moïse. Vos frontières seront depuis le désert et ce Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Le peuple d'Israël, Israël, était un peuple séparé des autres peuples. C'était un peuple élu. Et c'était le peuple de Dieu. Et Dieu était présent au milieu de son peuple. Et Israël devait être un peuple saint, comme l'Éternel, comme Dieu était un peuple, était un Dieu saint. Israël avait quatre frontières, selon ce qui est écrit au verset 4, et ces frontières symbolisent, en ce qui nous concerne, le monde, et symbolisent les quatre caractères du monde. En bas, nous voyons qu'il y avait un désert, et cela symbolise l'aridité du monde pour le peuple de Dieu. La deuxième frontière, c'était au nord, c'était le Liban, une grande montagne qui symbolise la puissance de ce monde. À l'est, il y avait un grand fleuve, l'Euphrate, et ce fleuve symbolise la prospérité de ce monde. La quatrième frontière du peuple d'Israël était à l'ouest, et nous voyons dans le verset 4 qu'il s'agissait donc de la mer Méditerranée, la grande mer, qui symbolise l'agitation de ce monde. Et l'Éternel, Dieu, avait donné au peuple d'Israël, son peuple élu, ce pays de la promesse, Canaan. Et la ville de Bethléem était sur la possession de la tribu de Juda, puisque le pays de Canaan avait été partagé, nous le lisons dans le livre de Josué, par tirage au sort pour chacune des tribus d'Israël. Et Bethléem se trouvait donc proche de la frontière est, c'est-à-dire du Jourdain. Et de Bethléem, on pouvait voir au loin les plaines de Moab, les plaines particulièrement fertiles de Moab. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que Moab, ainsi que Ben-Ami, c'est-à-dire Ben-Ami et Moab étaient les deux fils qu'avait eu avec ses filles Lot, et les Moabites et les Ammonites étaient des peuples qui étaient absolument opposés et cruels à l'égard du peuple d'Israël. C'était des ennemis héréditaires du peuple d'Israël. Dans le début de ce que nous venons de lire, ou plutôt ce que nous avions lu un peu la dernière fois, c'est qu'il y avait une grande famine dans le pays d'Israël. Et cette famine était sans doute une conséquence de la désobéissance de son peuple. Nous pouvons lire quelque chose dans le Deutéronome. Deutéronome chapitre 11. C'est l'Éternel qui parle au verset 8 jusqu'au verset 15. Vous garderez donc tout le commandement que je vous commande aujourd'hui, afin que vous soyez forts et que vous entriez et que vous possédiez le pays dans lequel vous passez pour le posséder, et afin que vous prolongiez vos jours sur la terre que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leurs semences, un pays ruisselant de lait et de miel. Car le pays où tu entres pour le posséder n'est pas comme l'Égypte, le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu semais ta semence et où tu l'arrosais avec ton pied comme un jardin à légumes. Mais le pays dans lequel vous allez passer pour le posséder est un pays de montagnes et de vallées. Il boit l'eau de la pluie des cieux, un pays dont l'Éternel, ton Dieu, a soin, sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et il arrivera que, si vous écoutez attentivement mes commandements que je vous commande aujourd'hui pour aimer l'Éternel, votre Dieu, et pour le servir de tout votre cœur et de toute votre âme, alors je donnerai la pluie de votre pays en son temps, la pluie de la première saison et la pluie de la dernière saison. Et tu recueilleras ton froment et ton mou et ton huile, et je te donnerai l'herbe dans tes champs pour ton bétail, et tu mangeras et tu auras et tu seras rassasié. L'Éternel avait ses yeux continuellement sur son peuple Israël dans le pays de la promesse. Et en lisant le début du livre de Ruth, nous comprenons que la famine n'est pas due au hasard, mais elle est au contraire une marque du déplaisir de l'Éternel à l'égard de son peuple. Le pays de Canaan était un pays particulièrement fertile, et l'imminence d'une famine indiquait un châtiment de la part de l'Éternel à cause des transgressions de son peuple. Et l'abondance dans le pays ne dépendait que du comportement de son peuple. Son peuple devait être attentif à ses commandements, l'aimer, le servir de tout son cœur et de toute son âme. Et il en résultait une bénédiction, une récolte abondante était la récompense de leur amour et de leur obéissance. Dans Ruth, nous voyons donc une famine que l'Éternel manifestait son déplaisir à cause de la désobéissance de son peuple, comme nous avons pu le voir à la fin du livre des Juges. Il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Il ne nous est rien dit des motifs de Élimélec. Et il y a toujours un grand danger à faire fonctionner notre imagination, mais nous pouvons constater que cet homme, avec sa femme, eh bien, il a sans doute pu regarder au loin les plaines fertiles de Moab, eh bien, il se met en route avec sa famille dans ce pays qui était un pays ennemi d'Israël. Et il y va, il y séjourne, et nous voyons que qu'il va y chercher donc ce qu'il ne trouvait plus en Israël, Et son nom, qui était Dieu est mon roi, Élimélec, eh bien, il sous-estime cet héritage qu'il avait reçu de la part de l'Éternel, et il s'en va, et il s'en va dans les champs de Moab. Il y a sans doute une instruction en ce qui nous concerne, puisque nous sommes aussi le peuple céleste de Dieu, et il y a toujours un danger à jeter les yeux sur le monde qui nous entoure, avec sa puissance, avec son agitation, avec cette aridité pour nos âmes. Et il y a un très grand danger à quitter donc cette place de séparation vis-à-vis de ce monde pour nous engager avec nos cœurs dans ce monde qui est un monde qui a rejeté Christ. Et nous devons être attentifs au fait que ce monde a justement rejeté Christ, de ne pas être tenté par lui.
Verset 6, elle commence, ce verset 6 commence, elle se leva. Verset 7, et elle partit. Le « elle » est au singulier. C'est Naomi. Et chaque fois, il nous est dit après, elle et ses belles-filles. Verset 6, verset 7, et ses deux belles-filles avec elle. L'initiative est sans équivoque de Naomi. Et la suite du verset 6 nous le montre. Elle avait entendu dire, de nouveau elle au singulier, Naomi avait entendu dire au pays de Moab qu'il y avait de nouveau du blé en Israël. Non, ce n'est pas ce qui est marqué. Ce n'est pas marqué qu'il y avait encore du blé en, qu'il y avait de nouveau du blé en Israël. C'est marqué que l'Éternel avait visité son peuple pour leur donner du pain. La famine d'un côté, et l'abondance, ce qui répond au nécessaire, de l'autre côté. Et entre les deux, c'est « l'Éternel avait visité son peuple ». Elle avait entendu dire au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. C'est la première chose qui est mentionnée dans ce que Naomi a entendu. C'est ce qui est le point important de ce qu'elle a entendu. Et parce que l'Éternel avait visité son peuple, pour lui donner du pain. Parce que l'Éternel avait visité, il y avait de nouveau du pain. Je pense en parallèle avec ça, on peut lire un verset dans Agé qui présente, c'est l'Éternel qui parle par la bouche d'Agé, et les choses sont dites un peu dans un sens inverse. Alors c'est très différent, en ce sens que c'est l'Éternel qui, par Agé, interpelle ce résidu revenu de la transportation. Et donc il y a une relation totalement différente qu'avec une personne seule, isolée, qui a été loin de chez elle pendant longtemps, qui était partie dans ce pays de Moab. Est-ce que c'est une décision commune d'Élimélec et de Naomi? Est-ce que c'est une initiative d'Élimélec? Nous n'en savons rien, mais Elle n'était pas partie, toute seule, de sa propre initiative. C'était quelque chose d'autre. Donc les situations ne sont pas vraiment à comparer. Mais ce que je voudrais juste relever, dans le premier chapitre de Agé, où c'est l'Éternel qui parle et qui interpelle, verset 5 au milieu, « Considérez bien vos voies, vous avez semé beaucoup, vous rentrez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés, etc. » Verset 7, ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos bois. Montez à la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, j'y prendrai plaisir et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous vous attendiez à beaucoup, voici, ce n'a été que peu. Plus loin, verset 10, C'est pourquoi au-dessous de vous, les cieux ont retenu la rosée, la terre a retenu son produit, et j'ai appelé la sécheresse, etc. Et puis on saute au verset suivant. Au chapitre, paragraphe suivant. Le peuple s'est mis au travail. L'Éternel, verset 13 à la fin. L'Agé qui parle de la part de l'Éternel, disant « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et on peut sauter juste à la fin du chapitre, du livre. Fin du verset 18 du chapitre 2. « Considérez le bien. La semence est-elle encore dans le grenier ? Même la vigne et le figuier et le grenadier et l'olivier n'ont pas porté de fruits. Dès ce jour-ci, je bénirai. » La famine ou l'abondance, la famine, le besoin ou ce que qui répond à ce besoin, qui nourrit, est dans la main de l'Éternel. C'est lui qui enlève, c'est lui qui donne. Il y a en parallèle, bien sûr, cette promesse très terrestre, si je peux dire, qui est liée à l'espérance terrestre d'Israël, la manière dont Israël marche. Et le livre des juges, si on parcourt le livre des juges, on se rend compte que il y a beaucoup de versets pour nous décrire tout ce en quoi Israël s'est détourné de l'Éternel. Et les passages qui nous parlent des périodes où l'Éternel est revenu, où le peuple est revenu et où l'Éternel a pu bénir, il y a des tranches de 30 ans ici, 40 ans ici, etc. En termes de versets, c'est très peu de choses. C'est pas détaillé du tout. La parole s'attarde, si on peut dire, pour nous montrer les mille façons que nous avons de nous détourner de Dieu. Et elle nous mentionne, sans nous détailler, dans ce livre des juges, ailleurs c'est différent, mais quoique dans les prophètes on retrouve ça aussi, elle mentionne sans détailler, elle laisse à la piété de voir comment se déroulent les temps où le peuple suit l'Éternel. Alors pour revenir à notre livre, c'était un peu une parenthèse, ce que je voulais dire là, c'est ce que je veux relever, c'est que la famine n'est pas une fatalité qui arrive immanquablement sans solution. Naomi entend que l'Éternel a visité son peuple, qu'il y a une réponse de l'Éternel, qu'il y a une action de la part de l'Éternel. Et elle prend, elle, l'initiative de se lever, de partir. Et on peut voir dans ce paragraphe qu'on a lu plusieurs étapes. Cette première étape des versets 6 et 7, c'est Naomi qui se met en route. Il y a un effet d'entraînement. Ses belles-filles partent avec elle. Comme une spontanéité, comme quelque chose de normal, d'automatique. Mais là où Naomi est, nous sommes aussi, nous sommes liés à elle. C'est notre belle-mère. C'est la maman de nos maris qui sont décédés. Ben, nous sommes liés les unes aux autres. Voilà. Effet d'entraînement, elles partent avec. Et puis on a plusieurs étapes. Verset 8, une première étape où Naomi arrête la marche en quelque sorte. Puis au verset 11, une deuxième étape où, de nouveau, Naomi insiste. Et puis au verset 15, une troisième étape, encore une insistance de Naomi. Et en fin de compte, au verset 18, Naomi vit qu'elle, au singulier, Ruth, était résolue d'aller avec elle, et elle cessa de lui parler. À trois reprises, Naomi va placer devant, d'abord Orpa et Ruth, ensuite devant Ruth seule, ce qui est devant elle. Ce qui est devant elle, c'est, bien sûr, on est toujours sur cet horizon terrestre dans le livre de Ruth, c'est, ben, quelle sera votre vie ? Vous quittez votre nation, votre peuple. Vous quittez, voilà, vos dieux. Vous quittez tout ce qui est votre passé pour aller dans un inconnu. C'est pas de cette manière que Naomi le met en face d'elle, le met devant elle. Elle commence par relever, d'abord retournez chacun dans la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous avez fait envers les morts et envers moi. Elle commence par relever tous ceux dont elle est reconnaissante, dont elle a des raisons d'être reconnaissante de ce que Ruth et Orpa ont pu être pour ses fils et pour elle-même. Et puis, voilà, l'Éternel vous donne de trouver du repos, chacun dans la maison de son mari, d'un mari à venir, hypothétique, moabite. Elle ne détaille dans la première étape pas plus que ça. Elle leur dit non, mais ne venez pas avec moi. Ne venez pas avec moi. Vous avez été bonne avec moi. Que l'Éternel vous bénisse, mais restez. C'est ici votre chez vous. C'est un appel à regarder à la dépense. Mais en même temps, ce n'est pas dans l'esprit de Naomi. C'est la pensée initiale, mais non, ce n'est pas possible qu'elle vienne avec moi en Israël comme moabite. La réponse, on la voit bien, non, nous retournerons avec toi vers ton peuple. C'est la spontanéité qui répond sans avoir regardé la dépense. Et au verset 11, on ne va pas détailler ces choses plus loin, je fais juste un survol. Au verset 11, Naomi détaille. Venir avec moi en Israël, c'est vivre la suite de votre vie comme veuve. Sans descendance, sans reconnaissance, sans même une existence dans ce pays qui vous sera étranger. Là, au verset 14, elle s'arrête. Et Orpa et Ruth considèrent les choses. Et Orpa décide. Et Ruth aussi décide. Les chemins se séparent. Et alors la troisième étape, Naomi, s'appuyant sur le choix d'Orpa, amène Ruth à réfléchir plus. Je dirais que quand je le dis à réfléchir plus, ce n'est pas juste. Elle interpelle encore Ruth et au fond, sans le vouloir, elle amène Ruth à extérioriser ce qui est dans le fond de son cœur. Et c'est beau de voir comment ces trois étapes arrivent au verset 16. Au verset 16, où Ruth se révèle à nous comme ce qu'elle est. Nous découvrons dans ce verset 16 qui est Ruth. Jusqu'à présent, c'était qu'un nom, une personne, un nom, un lien, femme de l'un des fils de Naomi. Voilà, c'est tout. Nous ne savions rien d'elle. Là, dans ce verset 16, on découvre vraiment qui est Ruth. Un cœur engagé, décidé, un attachement profond à Naomi, sa belle-mère, par ce lien, par cet engagement vis-à-vis de Naomi, elle est prête à tout laisser et à venir dans un peuple étranger. Et avec cette très belle phrase, « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Là, on peut peut-être découvrir que l'Éternel était présent dans le foyer d'Élimélec et de Naomi. On peut peut-être découvrir que Ruth avait vu la place qu'avait l'Éternel dans le cœur de Naomi. Et elle peut dire, « Ainsi me fasse l'Éternel, ainsi y ajoute, si la mort seule ne me sépare de toi. » Elle a regardé à la dépense et elle veut continuer le chemin. Et alors cette quatrième étape que j'avais relevée au verset 18, Naomi vit qu'elle était résolue d'aller avec elle, et elle cessa de parler. Naomi voit que, voilà, ce qui a été dit par Ruth montre qu'il n'y a plus rien à dire. Il y a une même pensée, il y a un même objectif, il y a un prix à payer qu'elle est prête à partager, qu'elle est prête à payer avec Naomi. Il y a un engagement qui va au-delà de Naomi. qui va, dans une espèce de hiérarchie, si on peut dire, ascendante, la personne de Naomi, le peuple de Naomi, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Elle est prête à tout laisser pour venir prendre une petite place là. Combien c'est beau et encourageant de voir comment là, premier détail que nous avons sur Ruth, c'est ça. On peut relever d'ailleurs un peu le contraste. Au verset 15, Naomi dit « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. » Ruth, elle dit « Ton Dieu, au singulier, sera mon Dieu. » La pleine compréhension de l'Éternel, de qui est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui exclut, qui met de côté tous ces dieux de Moab.
Je voudrais dire encore un verset dans les Proverbes. Avant de parler de Naomi. Proverbe chapitre 14. Verset 12. Il y a telle voie qui semble droite à un homme, mais des voies de mort en sont la fin. L'histoire d'Élimélec, c'est un Israélite qui se fie à son propre jugement. Il choisit son propre chemin pour trouver de la nourriture. Et au lieu d'y trouver de la nourriture, il y trouve sa tombe. Ces journées en Moab pouvaient sembler une bonne voie à suivre, peut-être, mais a-t-il entendu la voix de Dieu qui pouvait lui dire « C'est ici le chemin, marchez-y » Il y a des choix qui sont décisifs dans notre vie. Et dans ce verset 12, il y a une telle voix qui semble droite à un homme. Insister peut-être sur le verbe « sembler ». Une telle voix qui semble droite à un homme, mais des voies de mort en sont la fin. Élimélec et sa famille ont voulu échapper à la rigueur de la famine. Comme on l'a dit, rien ne nous dit la raison de sa décision. Mais ce que nous pouvons voir, c'est qu'il quitte Bethléem, la maison du pain. Il quitte le pays de Juda et il va séjourner dans le pays de Moab qui était des ennemis du peuple d'Israël. Si Dieu n'était pas honoré en Israël, puisque chacun faisait ce qui était bon à ses yeux, est-ce que Dieu était honoré dans le pays de Moab? L'histoire d'Élimélec, c'est l'histoire d'un éloignement. On s'en va. Et puis dans le pays de Moab, nous voyons que c'est la misère, c'est les larmes, et c'est la mort. On y séjourne, on y reste et on meurt. Et Élimélec entraîne sa propre famille. Et nous voyons qu'Élimélec est un triste exemple pour ses fils. Et puisque les deux fils, eh bien, ils prennent pour épouse des Moabites, et puis ils y meurent aussi. C'est une grande leçon pour les parents et les grands-parents de faire des choix décisifs avec Dieu et non pas sans Dieu. On a dit que l'éducation des enfants, il y a trois choses. La première des choses, c'est d'être exemplaire. La deuxième chose, c'est de prier pour nos enfants. Et la troisième chose, bien sûr, c'est de les enseigner. Souvent, on met en tête l'enseignement. Eh bien, l'histoire d'Élimélec, c'est l'histoire d'un homme qui avait un nom extraordinaire, un Dieu et mon roi, qui s'éloigne, qui s'en va dans un pays ennemi d'Israël. Il y meurt, mais il a été un triste exemple pour ses fils. Et quelquefois, on cherche du répit dans la vie de l'Assemblée, au combat. On désire du repos. On veut de la tranquillité. Et on trouve que la vie d'Assemblée est difficile. Quelquefois, il peut y avoir de la famine. Eh bien, dans le monde, on ne trouve pas le repos. On peut y trouver la mort, et la mort spirituelle, ce n'est pas forcément la mort physique. Ici, c'est la mort physique. Mais dans le monde, on peut trouver la mort spirituelle. Élimélec, c'est le chemin de la chute, tandis que Naomi, dont on vient de parler, c'est le chemin de la restauration. Et qu'est-ce qui pousse Naomi à revenir? Eh bien, c'est la bonne nouvelle de la grâce du Seigneur. C'est toujours la grâce qui attire. Et il faut nous souvenir que c'est la grâce du Seigneur dans ce pays où il y avait de la famine qui est intervenue. Et de nouveau, il y allait avoir une récolte abondante. Elle y séjourne 10 ans, sans doute, dans le pays de Moab. Mais si elle s'est égarée avec son mari, eh bien, elle se lève. Quand on s'éloigne, à un moment donné, il faut se lever et il faut se retourner. Il faut partir du lieu où on était, c'est-à-dire il faut rompre avec toutes nos mauvaises associations. Si nous nous sommes engagés dans le monde, un monde qui est ennemi de Christ, qui a rejeté Christ, eh bien, il faut se lever, il faut se retourner, il faut faire demi-tour. Et on peut être placé quelquefois devant des décisions tellement importantes dans notre vie. Ne faisons jamais l'erreur de nous éloigner, d'aller vers le monde, quelquefois même dans le monde religieux. Ne refusons pas les combats dans l'Assemblée, même s'il y a des difficultés qui pèsent sur les cœurs. Ne refusons pas les combats, mais surtout, n'allons pas vers le monde.
Quand on vient au Seigneur, alors on n'est plus du monde. Comme le Seigneur l'a dit en Jean 17, « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Par la foi, Dieu nous a délivrés de ce monde, nous a retirés de ce présent siècle mauvais. Et nous voyons dans ce livre de Ruth, qui est un beau livre, et nous voyons ce qui caractérise ce livre, c'est la grâce et la foi. Élimélec et Moab et son épouse Naomi, avec leurs fils, se sont éloignés de Dieu, ont quitté le peuple, ce pays de la bénédiction, pour venir s'éloigner de Dieu et aller dans le monde moabite. Et nous allons lire toujours le Deutéronome 23, verset 3 à 5, ce que sont les moabites. Et ils ne peuvent jamais venir au peuple de Dieu. Mais Naomi était éprouvée. Et nous savons que les conséquences, lorsque nous quittons le pays de la bénédiction, et les conséquences, ici, en livre de Ruth, c'est la mort, c'est les pleurs, c'est la misère et c'est l'amertume. Et Naomi était éprouvée de cela. Mais Dieu relève ceux qui sont courbés. Psaume 146, versets 8 ou 9. Dieu relève ceux qui sont courbés. Il relève Naomi. Et nous voyons ainsi la foi de Ruth. Orpah a embrassé sa mère, elle a baisé sa mère. Mais nous voyons que Ruth, il n'est pas écrit qu'elle l'a baisé et embrassé, mais elle l'aima. Elle aima ainsi sa belle-mère, et j'aime beaucoup quand on lit ce verset 16 de ce livre de Ruth, chapitre 1. Elle aima sa belle-mère et elle voulait aller, elle s'engageait pour le peuple, pour Dieu, pour le Dieu d'Israël. Et nous pouvons lire dans Jérémie 30, verset 21, que Jérémie 30, 21, qui est celui ou celle qui s'engage pour venir à moi? Voilà, et Ruth s'est engagée pour le Dieu d'Israël. Et ainsi, elle s'est engagée, comme disait Marie, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée, Luc 10, 42. Et ainsi, nous voyons ce beau livre de Ruth, et Naomi revient alors vers son peuple, s'engage et pour venir à nouveau dans le pays de la bénédiction. Avec Orpah, c'est égaré, c'est éloigné, et Ruth l'a accompagné.
Au verset 6, on a vu, car elle avait entendu dire au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple pour leur donner du pain. Elle l'avait entendu dire à Moab, dans Moab, ce qui se passait dans le pays d'Israël. Et là, on peut se poser la question pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que le monde entend de ce qui concerne les croyants, de ce qui concerne le peuple de Dieu? Question aussi, qu'est-ce que nous, on raconte? Qu'est-ce qu'on raconte dans nos familles? Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce que nos enfants entendent? Est-ce qu'ils entendent que c'est mieux dans le monde ou est-ce qu'ils entendent que c'est mieux dans le peuple de Dieu? Élimélec avait fait le choix d'aller dans Moab. Probablement qu'il avait dû tirer la conclusion que c'était mieux d'y aller. Il n'avait peut-être pas toutes les informations. Et là, on voit Naomi qui décide de retourner. C'est qu'elle avait entendu dire que c'était mieux, que Dieu avait visité son peuple. Une responsabilité aussi par rapport à ce que nous disons et ce que nous laissons entendre. Et une deuxième pensée aussi, c'est on voit dans ce comportement de Naomi qui dit à ses belles filles « Allez, retournez chacune dans la maison de sa mère ». Elle prenait la décision de retourner en Israël, mais elle souhaitait pour ses belles filles qu'elles retournent en Moab. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Et est-ce que quand nous, nous prenons des décisions pour nous, est-ce que nous les souhaitons aussi pour les autres? Est-ce que nous le souhaitons pour nos enfants? Ou est-ce que nous souhaitons quelque chose qui est contraire, qui est opposé?
Je voudrais dire quelque chose sur la restauration de Naomi, sur son retour. L'amour avec lequel elle est reçue à Bethléem permet à son cœur de s'ouvrir. Il est écrit... Toute la ville s'émut à leur sujet. Et la compassion des saints à l'égard d'une personne qui revient, qui retourne, eh bien, cette compassion permet à Dieu de parfaire son travail. Il y a le côté de Dieu. C'est Dieu qui a opéré dans le cœur de Naomi. Et on ne voit aucune chose extérieure. Mais pendant ces 10 années, cette femme qui était veuve, qui était ruinée, qui avait perdu ses 2 fils, qui avait plus de ressources, eh bien, elle se met en route, elle tourne les talons au pays de Moab, et nous voyons que l'accueil de cette personne, cette émotion à voir Naomi, eh bien, permet au cœur de Naomi de s'ouvrir. Et elle peut dire, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. C'est le travail de Dieu de remplir d'amertume, de faire comprendre à quelqu'un qui s'égare, ou si je m'égare, eh bien, mon cœur sera rempli d'amertume. Mais si le Tout-Puissant a rempli d'amertume le cœur de Naomi, le Tout-Puissant ne l'a pas abandonné. Le troisième point, c'est que la discipline, elle est toujours amère. Quand on s'est éloigné, quand on s'éloigne, la discipline, elle est toujours amère. Mais Dieu, le Tout-Puissant, il n'abandonne pas ses saints et le Seigneur ne nous abandonne pas. Et dans l'expression qu'elle emploie, Naomi, elle dit « je m'en allais ». Elle ne rejette pas la faute sur les autres, sur la faute sur autrui, pour s'excuser elle-même. Et nous entendons souvent des personnes qui s'éloignent, hélas, et cela nous serre le cœur, mais qui rejettent la faute sur les autres. Et Naomi, dans sa restauration, elle dit « je m'en allais ». Et elle ne rejette pas sa faute sur quelqu'un d'autre ou sur la situation de l'assemblée pour s'excuser. Et elle donne tout le crédit de sa restauration à Dieu lui-même. C'est Dieu qui la ramène. Et il la ramène à la maison. Elle était partie de Bethléem et Dieu la ramène au point de départ. C'est moi qui suis parti, mais c'est Dieu qui me ramène. Voilà la restauration au fond. J'ai fait un acte de propre volonté. Je me suis éloigné, je suis allé vers le monde, mais Dieu s'est occupé de moi. En grâce, et c'est lui qui me ramène. Et il la ramène comment ? À vide. Quand on revient d'un pays d'éloignement, on revient à vide. C'est-à-dire que dans ce pays d'éloignement, on n'a fait aucun progrès spirituel. On est dépouillé. Et au retour, eh bien, toutes ces choses qui sans doute empêchaient les progrès spirituels sont ôtées. Et quand on revient à vide devant Dieu, eh bien, Dieu va pouvoir nous remplir. Si le vase est brisé, eh bien, la lumière de Christ peut être dans ce vase et luire à nouveau. Et si le Seigneur nous ramène quand nous nous sommes éloignés, c'est uniquement pour remplir nos âmes de sa personne.
Il y a chez Naomi, avant son départ, on peut dire, de Moab, cette conscience d'un retour à l'Éternel. Au verset 13, à la fin, elle peut dire à Orpa et à Ruth, « Non, mes filles, car je suis dans une plus grande amertume que vous, car la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » La main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elle a pleinement conscience que ce n'est pas quelque chose de fortuit, des choses qui arrivent, et ça lui est arrivé à elle, que Elkana, son mari, soit mort, que ses deux fils soient morts. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme des choses qui arrivent à tout le monde, il arrive des choses à tout le monde sur la terre. Non, ce n'est pas ça. Elle reconnaît bien que, là aussi, Dieu, d'une manière ou d'une autre, a agi. Dans un plan qui la dépasse complètement. Il ne peut pas, il n'y a pas, et il ne peut pas y avoir de conscience chez Naomi de ce qu'est le plan de l'Éternel dans lequel elle a là sa place. Qu'on verra à la suite, à la fin surtout, de ce livre de Ruth. C'est la descendance de Judas, de Abraham, vers David, vers le Messie. Mais ça, c'est quelque chose qui est totalement hors de ce qu'elle peut percevoir. Mais si on peut dire les choses comme ça, il fallait que Naomi revienne en Moab d'une manière ou d'une autre. Et on peut le dire, après avoir lu tout le livre, il fallait qu'elle revienne en emmenant Ruth. Mais ça, c'est pareil, ce sont des mystères que nous ne comprenons pas. Pourquoi Dieu a voulu les choses de cette manière-là? Et dans ces versets qui révèlent, qui nous font découvrir Naomi, la personne de Naomi, par rapport à la question que posait Adrien, je crois qu'on est là, on touche la limite de ce en quoi on peut transposer le récit de Ruth, de Naomi, de Ruth, à ce qui nous concerne, nous, dans le temps de la chrétienté, dans le temps de la grâce. Israël n'est jamais appelé à aller convertir les nations. Israël est appelé à vivre selon les commandements de Dieu dans le pays qui leur a été donné. Des gens des nations qui voulaient se joindre à Israël devaient être accueillis avec des conditions. Mais Israël n'est jamais appelé à chercher, à stimuler les nations à venir se joindre à Israël, au peuple. Et en ce sens-là, dans le verset 8, Naomi est dans une... Au fond, quelque chose. Qu'est-ce qu'elle demande au verset 8 pour ses belles-filles? Elle leur demande du bien pour elles. Du bien dans leur cadre de ce temps où elles vivaient, dans le peuple dont elles étaient issues et où elles avaient grandi et auquel elles appartenaient. La place de Naomi était de rentrer, de retourner physiquement, travail intérieur, travail extérieur, à l'Éternel, à son peuple. Sa tâche n'était pas de ramener des Moabites avec elle pour les ajouter à Israël. Et Naomi, ça ne nous est pas dit là, mais elle avait peut-être très conscience de ce qui était dit, que l'Éternel avait dit. Deutéronome 23, je ne sais plus si on l'avait lu la dernière fois, mais on peut le relire. Deutéronome 23, verset 3, je crois que Robert y a fait allusion tout à l'heure. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans la congrégation de l'Éternel. Même leur dixième génération n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel à jamais. Les mots sont très forts. Rentrer en amenant ces deux femmes moabites, alors que la parole de Dieu, les livres de Moïse, disaient une telle chose. Donc, voilà. Et ce qui anime le cœur de Naomi, c'est le bien de ses belles filles. Ce qui remplit son cœur, c'est cette amertume qui la concerne, elle. Elle revient dans une attitude de deuil. Je me suis éloigné. L'Éternel a agi contre moi pour me parler. Maintenant, je reviens. Je n'ai droit à rien. Vous, mes belles filles, suivez le chemin où vous trouverez de la bénédiction pour vous. Et elle demandait bien que l'Éternel use de bonté envers vous. L'Éternel vous donne de trouver du repos. Son cœur désire ce repos pour elle. Bien sûr, on ne voit pas là les sentiments de Naomi, on les verra plus loin, à la réponse de Ruth du verset 16. Là, le narrateur ne nous dit que Naomi vit qu'elle était résolue d'aller avec elle, qu'il était inutile de continuer à parler. Comment son cœur a apprécié, si je peux dire, cet attachement ? Nous n'en savons rien. Peut-être qu'à ce moment-là, Naomi était plus remplie de cette amertume et de cette conscience de son chemin, de leur chemin d'égarement. Je voudrais encore noter une chose. Verset 20, elle dit à ces femmes de Bethléem, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. » Dans toute la suite de ce livre, elle sera toujours appelée Naomi. Ce nom de Mara, personne ne l'a retenu. C'était son sentiment, c'était sa vue intérieure de ce qu'elle avait, de son chemin sous le regard de Dieu. Mais ce n'était pas le regard des autres et le regard de Dieu sur elle. Elle reste Naomi. Si on se rappelle des significations, Naomi, mes délices, gracieuse, Mara, amère, amertume. Elle reste Naomi pour tous les autres qui l'entourent et devant l'Éternel.
Comment se manifeste la foi de Ruth ? Elle se manifeste par une affection dévouée à Naomi. Elle se manifeste par le désir d'une autre patrie, une patrie meilleure. Elle désire aller en Israël. Elle veut quitter Moab. Et un des caractères de la foi, c'est ce désir d'avoir cette patrie, une nouvelle patrie, la patrie de l'Éternel. Et la foi de Naomi lui permet de prendre une décision, et une décision ferme. Elle s'attache à Naomi et elle a ce désir et cette fermeté de la foi de partir, de quitter son pays et d'aller dans le pays d'Israël. l'énergie de la foi la rend capable de vaincre l'attrait qu'avait pour son cœur ce pays de Moab. Et à ne pas douter, elle y laissait de la famille. Mais elle laissait son peuple, elle laissait ses dieux, mais elle emprunte ce chemin du pèlerin, puisque elle s'en va dans un pays qu'elle ne connaît pas. Le pays d'Israël, elle ne le connaissait pas. Et nous voyons déjà, à travers ces quelques manifestations extérieures, nous pourrions dire, cette énergie de la foi, ce désir d'avoir une patrie nouvelle, de connaître ce Dieu d'Israël qui donnait du pain aussi à son peuple. Et en partant, elle accepte aussi de subir subir le sort de ce peuple d'Israël. Souvent, nous désirons à la fois et la terre et le ciel. C'est sans doute un des grands problèmes des chrétiens. On veut les deux. On veut le monde, on veut la terre et on veut le ciel. Eh bien, ce n'est pas possible. Il faut s'engager, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut engager son cœur après l'Éternel. Et ce désir de la foi, de s'éloigner de ce monde et de se mettre en route comme des pèlerins et des étrangers en route vers notre patrie céleste. Et tel était le cas de Ruth. Ruth part de Moab, elle se met en route vers un pays inconnu, un pays étranger, mais c'était le pays de l'Éternel, ce pays que l'Éternel avait donné à son peuple.
Juste pour un petit éclairage sur ce que Michel vient de dire, nous désirons le monde et en même temps que la marche de la foi. Il convient de faire une distinction entre ce qui est du registre du monde et ce qui est du registre de la terre. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme des ascètes, à nous priver délibérément de tout ce qui pourrait être des choses déplacées parce que elles sont dans ce monde, mais qu'en fait elles sont tout simplement de la terre. Je prends un exemple. Nous ne sommes pas appelés à nous nourrir de n'importe quoi sans que la nourriture soit bonne, parce que la bonne nourriture, c'est des choses du monde. Non. Il nous faut bien faire la distinction entre ce qui est le monde, dans l'esprit, dans ce qui anime le monde, et surtout dans ce qui manque dans le monde. La chose qui manque dans le monde, c'est qu'il n'y a pas de place pour Dieu. C'est ça le point fort de ce qui est le caractère du monde. Dieu n'a pas de place. On ne veut pas de lui dans cette sphère-là. La terre, c'est tout à fait autre chose. La terre, c'est par exemple, pour commencer, la création. Marquée par le péché, oui, mais c'est quand même d'abord la création de Dieu. Et nous devons, c'est ce qui rend notre marche dans ce monde, mais pas du monde, comme le Seigneur le dit en Jean 17, difficile et délicat, qui demande un exercice permanent, c'est de faire cette distinction permanente entre ce qui ne sont que des choses terrestres pour un temps, mais Dieu nous laisse sur cette terre, dans ce temps de notre course, et ce qui est des choses portant de manière caractérisée la note, la touche de ce qui est du monde. Pas de place pour Dieu.
Dans l'Épître aux Colossiens, juste une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 2, penser aux choses qui sont en haut, non pas celles qui sont sur la terre. Nous aurions pu penser que l'apôtre allait écrire « Penser aux choses qui sont en haut dans le ciel et non pas à celles qui sont dans le monde ». Mais là, il dit « sur la terre ». C'est-à-dire même des choses légitimes sur la terre peuvent nous captiver beaucoup trop. Et penser aux choses qui sont en haut, dans le ciel, mais non pas celles qui sont sur la terre, non pas celles qui sont dans le monde, on est bien d'accord, mais là, l'apôtre, il dit, non pas à celles qui sont sur la terre, il y a des choses légitimes aussi qui pourraient nous éloigner de Dieu.
Juste quelques versets qui illustrent la foi de Ruth. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, quelque chose qu'il est dit d'Abraham, mais qui peut s'appliquer en esprit à l'attitude de Ruth. Au verset 8, Hébreux 11, verset 8, « Et Abraham s'en alla, ne sachant où il allait. » Au verset 14, car ceci, à la fin du verset, montre clairement qu'ils recherchent une patrie. Et en effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu du temps pour y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a point honte d'eux, de savoir d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.
Juste, pardon, un dernier verset pour illustrer cela aussi. Dans le chapitre 15 de Luc, nous voyons l'état d'une âme qui fait ce tournant de la chute à la repentance. Au verset 16, le fils prodigue, où il désirait de remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient, qu'il gardait, et personne ne lui donnait rien. Et étant revenu à lui-même, il dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris ici de faim. Je me lèverai et je m'en irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et se levant, il vint vers son père. On peut dire que si c'est notre cas actuellement, peut-être de réaliser que dans le monde il n'y a rien du tout pour nous et que nous désirons nous en séparer, nous revenir à Dieu, nous pouvons rappeler à notre cœur, à notre âme, tout le pain spirituel qu'il y a pour nous en abondance auprès de lui. Et le travail de Dieu, on le voit dans Naomi, ne s'arrête même pas là. Elle va trouver en Dieu non plus celui qui simplement donne le pain ou qui est rempli d'amertume lorsqu'on s'éloigne, mais celui qui comble. Elle va trouver aussi le cœur de Dieu.